Nous continuons aujourd'hui à scruter, à contempler cette prière extraordinaire du Notre Père, qui, je vous le disais déjà dans les exposés précédents, passe presque inaperçue, tellement nous avons l'habitude de la lire de manière machinale, mécanique, en pensant souvent à autre chose. Or, c'est la seule prière que le Christ nous ait transmise. C'est dire que, comme il est le Verbe incarné, il a dû mettre dans cette prière l'essentiel de notre vie chrétienne. C'est un condensé, un concentré. Nous abordons aujourd'hui le verset « Remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs » ou « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ou « Pardonne-nous nos offenses ». Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut certainement pas, surtout pas, se concentrer sur une seule phrase, une seule traduction. Et vous allez voir que il y a plusieurs manières de dire cette phrase, même de traduire simplement la prière qui se trouve dans les évangiles. Et en réalité, comme vous le savez, elle se trouve dans deux évangiles différents, Saint Luc et Saint Matthieu, sous deux formes différentes d'ailleurs. Et comme nous avons l'habitude de chanter dans notre église « Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs » et dans la version œcuménique « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », on n'imagine pas qu'il y a d'autres possibilités de traduction. Et en réalité, il faut élargir cette phrase. Et plus on l'élargit, plus, je trouve, elle révèle sa richesse intrinsèque. Chez Saint-Luc, chapitre 11, nous trouvons cette phrase, j'aurais envie de vous la lire en grec, mais ça ne vous dirait rien, « Remets-nous nos péchés, entre guillemets, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Relevons deux mots qui sont différents de chez l'évangile de Saint Matthieu, qui sont le mot « amartia », qui veut dire, que l'on traduit par péché, mais qui signifie en réalité erreur, faute, transgression, ratage, égarement, défaillance, faiblesse. Et donc si on traduit uniquement par péché, je trouve qu'on perd une richesse sémantique qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup moins aussi moralisatrice. Quand vous parlez de faiblesse, de défaillance, de ratage, d'égarement, c'est beaucoup moins lourd que ce mot chargé par le poids des ans et chargé négativement de péché. Et ça vient du verbe amartano qui signifie, c'est intéressant, ne pas participer. Donc rester en dehors, manquer la marque littéralement. C'est dans un jeu, vous savez, on doit se placer à une certaine place, comme au baseball, eh bien on ne se place pas au bon endroit. Amartano, ou bien errer aussi, se tromper. Et relevons aussi dans Saint-Luc la conjonction « gar » qui en grec signifie « car ». Et donc nous n'avons pas « comme nous avons remis », c'est « car nous avons remis ». Ces deux termes donc n'apparaissent pas dans Saint-Matthieu. Et dans Saint-Matthieu, au chapitre 6, nous trouvons alors la version que nous avons traduite assez justement par « remets-nous nos dettes » comme nous remettons ou comme nous les avons remises à nos débiteurs. Les deux mots à épingler dans Saint Matthieu sont ophélémata qui signifie dette, et littéralement une dette matérielle, une dette d'argent, et aussi oskai qui signifie comme, et non pas gar comme dans Saint Luc. Vous voyez, il y a déjà deux versions un peu différentes et même relativement différentes chez les deux évangélistes. Il est bon de le savoir et de sortir de notre traduction habituelle. Alors, les traductions possibles de la phrase qui figure chez Saint Matthieu, j'en ai pris quelques-unes, mais il y en a encore d'autres. « Remets les dettes de nous », ça c'est du littéral, « comme nous les avons remises aux débiteurs de nous ». C'est du petit nègre, mais c'est très littéral. C'est ce que nous disons un peu, mais dans une forme plus littéraire. Ou alors « Libère-nous de nos dettes, comme nous libérons nous-mêmes nos débiteurs ». Ça c'est la traduction de Jean-Yves Leloup. Jean Carmignac, qui a écrit deux livres sur le Notre Père, dit « Acquitte-nous nos dettes, comme nous avons aussi acquitté nos débiteurs. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, traduction Louis II, qui était reprise dans la Bible œcuménique. Ou alors, encore, dans la Tobe, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Vous voyez, nous rencontrons non seulement le mot dette, mais aussi offense, tort. Et en réalité, le mot ophélémata, le mot grec, signifie ce qui est dû. Donc une dette, littéralement. Y substituer le mot offense ou tort, comme on le fait dans la traduction œcuménique, est critiqué par plusieurs, et notamment parce que Dieu est au-delà de l'offense. On ne peut pas offenser Dieu. Il faut bien se mettre ça dans la tête et dans le cœur. Dieu est inoffensable, il est bien au-delà. On peut offenser un être humain qui a sa susceptibilité, mais Dieu n'est pas susceptible. Et nous allons voir que s'il se met en colère, c'est pour bien d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'on l'a offensé. C'est beaucoup plus profond que cela. Autre particularité à souligner, et on le sent pas dans quand nous le disons en Église, c'est que le verbe, le temps employé, nous remettons, en réalité, c'est un passé, comme nous avons remis. Le mot grec est un passé, ce qui semble signifier, à première vue, et je lis Jean Carmignac ici, le terme original portait un verbe au passé, comme nous avons pardonné. Par là, le pardon que nous devons accorder à nos débiteurs est présenté comme antérieur à celui que Dieu nous accorde. Et cette antériorité de l'homme par rapport à Dieu constitue une singulière audace théologique. Et effectivement, et nous allons voir que c'est plus qu'une audace, c'est un contresens. Nous tenterons de comprendre si après, mais je ne vais pas développer ça maintenant, il faut procéder dans l'ordre, cette fameuse audace théologique, entre guillemets. Et notons déjà que la phrase est ambiguë. Elle semble dire que nous devons pardonner, nous devons avoir pardonné avant d'être pardonné par Dieu. Et rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. C'est un véritable contresens. Et quant au verset, je parlais ici de la version de saint Matthieu, quant au verset correspondant chez saint Luc, les traductions possibles sont « Libère-nous de nos péchés comme nous aussi nous pardonnons » ou « Pardonne-nous nos égarements car nous aussi nous avons pardonné à quiconque nous offense » « Pardonne-nous nos péchés car nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous ». Voilà trois traductions que j'ai prises chez Jean-Yves Leloup, Louis II et la Tobe. Je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas somnubiler sur le mot péché, extrêmement chargé, extrêmement mal accepté à notre époque, et il vaut mieux avoir dans l'esprit le mot de manquement, de rater, on a raté quelque chose, c'est une transgression, une faute, une erreur. Nous pourrions penser que cette première approche est une querelle de spécialistes. C'est une approche sémantique, grammaticale, une querelle de spécialistes, et que nous, les fidèles, disons normaux, si on peut parler de normalité, ça ne nous concerne pas et ça peut nous passer par-dessus la tête et par-dessus le cœur. Mais en fait, je pense que cette simple lecture littérale, c'est-à-dire de la lettre, nous incite à approfondir l'esprit de cette demande. Et elle suscite pas mal de questions que nous allons aborder au cours de cette journée. La première question est évidemment, qu'est-ce que le pardon et qu'est-ce que la remise de dette dont il est question? La deuxième question, pourquoi pardonner? On pourrait très bien dire, finalement, on peut ne pas pardonner et on peut très bien vivre apparemment sans pardonner. L'autre question, s'il faut pardonner, si on est porté à pardonner, comment pardonner? Autre question qui a déjà été évoquée dans la traduction que je vous ai dite, le pardon divin est-il conditionné par le pardon humain? Voilà une question vraiment centrale. À la lecture littérale de la prière, on pourrait le penser. Puis autre question, qu'avons-nous à nous faire pardonner par Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit nous pardonner? Et est-ce que nous trouvons dans le premier et le second testament des réponses à ces différentes questions? Et on pourrait en imaginer d'autres. Nous allons donc tenter d'y apporter quelques éléments de réponse, et je souligne vraiment que ce sont des éléments de réponse. Nous n'allons pas faire le tour de la question du pardon, qui, vous le savez, vous le sentez, vous le vivez, est tout à fait centrale dans notre vie humaine et dans notre relation à Dieu. C'est un sujet vaste, essentiel, et si riche qu'il est impossible en quelques heures, 3 heures aujourd'hui, de très loin, de faire le tour de la question. On pourrait y consacrer, je crois, une session de plusieurs jours à l'approche du pardon. Et donc, nous n'allons évoquer que quelques pistes à la fois théoriques, en partant des Écritures, et pratiques. Ce sera la dernière partie de mon exposé. Comment pardonner ? La première question, c'est, qu'est-ce que le pardon, en réalité ? Et est-ce qu'il se différencie de la remise de dette ? Nous allons partir de l'étymologie du mot pardon, per donare, qui est un verbe, qui signifie donner totalement, de manière parfaite, complète. Donc donare et per, qui est un préfixe, comme nous trouvons dans le mot aussi, il y a le verbe faire et le verbe parfaire, c'est faire totalement, complètement, de manière parfaite, parachever, ou encore perdurer. Donc, quand on veut accentuer le sens du verbe, on ajoute le suffixe par ou per, qui vient du latin donc per. Et à l'origine d'ailleurs, le verbe employé pour l'acte de pardonner était simplement donare en latin. Et à l'époque carolingienne, semble-t-il, on y a ajouté le suffixe per pour accentuer le caractère total, complet du don que représente le pardon. Je lis ici un petit extrait que vous trouverez dans les citations. Je vous signale que j'ai mis les textes et les citations à l'arrière, pour vous servir si vous le souhaitez. Comme l'indique le préverbe intensif par, issu du latin per, par donner, c'est donner complètement, totalement, jusqu'au bout. D'emblée se trouve ainsi mise en lumière la remarquable gratuité qu'implique le mot même de pardon. Rien ne ressemble moins à une quelconque comptabilité matérielle ou spirituelle. Retenons donc, déjà de cette première approche, je trouve cette étymologie très riche, que le pardon est un don, et un don parfait. Ce qui implique donc un élan désintéressé vers l'autre, un don véritable, c'est-à-dire totalement gratuit. Et il est vrai que dans notre faiblesse humaine, la gratuité est extrêmement difficile. Et de nombreux dons entre êtres humains ne sont pas si désintéressés qu'ils ne paraissent l'être. Et nos sociétés, nos relations sont fondées sur un mécanisme bien connu qu'on appelle le don et le contre-don. Je te donne pour que tu me donnes. Ce n'est pas toujours si explicite et si conscient, mais c'est une réalité tout à fait sociétale et relationnelle. Mais avec le pardon, nous entrons dans un domaine différent de celui du don et du contre-don, beaucoup plus subtil, plus profond, où la gratuité est tout à fait essentielle. Bien sûr, vous me direz, nous avons intérêt à pardonner, quelque part, bien sûr. Nous le verrons en examinant les effets du pardon, mais ce n'est pas cela qui motive la personne qui pardonne en réalité, du fond du cœur. À l'exemple de Dieu, nous le verrons, nous sommes invités par la tradition biblique et chrétienne à pardonner de façon totalement gratuite, totalement désintéressée, dans un élan du cœur et de tout notre être vers ce frère, cette sœur qui nous a blessés, fait du tort, ou causa un préjudice, ou tout simplement déçu. Mais aussi envers nous-mêmes, et aussi, parfois, envers Dieu. Et donc, on pourrait mettre autour du mot pardon différentes couleurs, qui ont pour nom générosité, gratuité, miséricorde, compassion, bienveillance. Une petite phrase extraite de l'article du Père Alphonse, très bel article que je vous ai mis là sur la table. Le pardon, don parfait, sans limite, puisqu'il va jusqu'au pardon des ennemis, est le sommet de tout amour. Le pardon est la vie elle-même, l'amour en acte. C'est pourquoi Jésus demande à Pierre de pardonner inlassablement, c'est-à-dire d'en faire un état, une vie en permanence. Le pardon, s'il est donné du fond du cœur, peut devenir un état permanent de pardon, c'est-à-dire de compassion, de bienveillance envers le prochain. Alors, venons-en à la remise des dettes, mais vous vous rendez bien compte que la remise des dettes, finalement, est synonyme du pardon. C'est plus imagé, c'est plus matériel, c'est plus concret, plus prosaïque, mais ça signifie remettre totalement, comme dans le pardon. Et nous savons, par exemple, que cette expression est illustrée très concrètement par le Christ dans la parabole du serviteur impitoyable. Vous vous rappelez, dans Matthieu 18, quand le maître, un serviteur, a une dette immense envers son maître, et son maître, ému de compassion, pris aux entrailles, remet totalement la dette au serviteur, qui lui-même ne la remettra pas à son propre débiteur. Et vous savez comment l'histoire se termine. Les termes grecs « aphès eminto ophelemata emon » qu'on trouve dans saint Matthieu évoquent une dette que nous avons à l'égard de Dieu et que nous lui demandons de laisser aller, lâcher, remettre. Ce sont les différents sens du verbe aphienai, pardon, qui est la racine de ophelemata, la dette. Donc délier. Il n'est évidemment pas question dans la prière d'une dette matérielle, ça nous le savons tous, mais de cette attitude récurrente d'égarement spirituel, de manquement, d'oubli que nous avons vis-à-vis de Dieu qui nous sépare de lui et nous éloigne de lui et dont nous demandons à Dieu le pardon. Nous allons revenir évidemment sur cette réalité spirituelle essentielle, centrale. Jean-Yves Leloup nous propose une interprétation très riche, presque surprenante, mais extrêmement juste quand on l'a lu deux fois. La première fois, ça m'a presque choqué, et que je vous livre ici, une interprétation nourrissante de la remise des dettes, qui n'est plus simplement considérée sous l'angle du pardon, ça va même un peu plus loin, mais comme une libération profonde de tout notre être. Il écrit que le Christ vient nous libérer de toute dette, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de toute contrainte, de toute obligation, liée notamment à la morale ou au devoir. Cela va très loin, jusqu'à nous libérer de l'obligation d'aimer Dieu et de lui être reconnaissant. Voilà une pensée audacieuse qu'il s'agit de bien comprendre. Ce qu'il veut dire, c'est que nous ne devons pas aimer Dieu. Nous ne sommes pas obligés de l'aimer, car l'amour, par définition, est gratuit. Et si nous aimons Dieu sur commande, quelque part, c'est notre surmoi qui nous dit « Attention, aime Dieu, sinon ça va aller mal. » Mais plutôt que de paraphraser la pensée de Jean-Yves Leloup, voici ce qu'il écrit et que vous trouverez dans les citations. Je trouve ça vraiment très, très beau et très riche. Il s'agit de libérer l'amour de tous ces « tu dois » et « il faut » qui entravent sa grâce et sa gratuité d'être. Dieu ne me doit rien, moi non plus, je ne dois rien à Dieu, ni l'honneur, ni la louange, ni l'adoration. On ne doit pas de l'amour à quelqu'un, on l'aime ou on ne l'aime pas. De la même façon qu'on ne mérite jamais d'être aimé, on ne doit pas obligatoirement aimer en retour quelqu'un qui le mérite absolument, tel l'absolu lui-même. Yeshua nous invite à une liberté inimaginable, que ce soit sur le plan matériel, psychologique ou spirituel. Personne ne nous doit rien et nous ne devons rien à personne, même pas à Dieu. Ce n'est ni indifférence, ni inconscience, mais invitation à une plus haute alliance. Deux points, ouvrez les guillemets, tu ne dois pas m'aimer, mais si tu le peux, tu peux. Tu es libre. Je ne dois pas t'aimer. Si je t'aime, je suis libre. Cette liberté prend sa source dans celui-là même que Yeshua appelle Abba, un père qui ne doit pas aimer ses enfants, qui n'a aucune dette à leur égard, mais qui les aime simplement et qui n'exige aucun amour en retour. Voilà, je trouve un texte magnifique et une pensée, me semble-t-il, d'une justesse absolue. Lu dans cette belle perspective, la demande du Notre Père devient « Libère-nous de l'obligation d'aimer, pour que nous soyons libres et capables d'aimer sans la moindre contrainte. » Alors passons maintenant à la question « Pourquoi pardonner ?» Et une telle question peut sembler incongrue dans la logique d'un monde qui est dominé en réalité par l'intérêt personnel, la rivalité, les enjeux de pouvoir, l'avidité. Et parfois tout simplement par la nécessité de vivre sans se faire dominer, avaler, écraser, dévorer, exclure, voler, voire tuer par ceux qui sont gouvernés par leurs passions. Ceux qui sont persuadés que la seule façon de survivre consiste à entrer dans un état d'âme, sans état d'âme, pardon, dans une logique égocentrique et violente. Et cette logique égocentrique et violente domine depuis toujours l'histoire humaine, et ça continue tous les jours. Il suffit d'ouvrir la télévision pour le voir. Tant au niveau individuel que collectif. Est-ce qu'il ne faut pas dans notre société être le meilleur, le plus fort, le plus rapide, quitte à écraser la concurrence et surtout les concurrents, sans aucune pitié ni scrupule. Et une grande partie de notre système soi-disant éducatif repose en réalité sur la compétition et la rivalité. Et malheureusement, nous ne transmettons à nos enfants que les prétendues valeurs qui nous ont été transmises et qui régissent nos sociétés malades. Et dans un tel monde, le pardon peut être perçu comme une expression de faiblesse, de mollesse, de laxisme, et même de lâcheté, de celui qui n'ose pas répliquer, qui n'ose pas se défendre, qui n'ose pas s'affirmer face aux autres. Par exemple, Nietzsche, évidemment, classe le pardon dans ce qu'il appelle la morale des faibles. Et d'ailleurs, combien de gens admettent-ils la faiblesse de Dieu ? D'un Dieu qui se fait petit, qui se fait souffrant et qui se laisse mourir, qui s'offre à la mort pour nous. Comme un esclave sur une croix et de surcroît en pardonnant à ses bourreaux. Et on peut se poser la question suivante, est-ce que j'accepte la fragilité d'un Dieu qui s'anéantit jusqu'à la mort? Et quelque part, est-ce que je ne regrette pas le Dieu tout-puissant qui d'un coup de baguette magique pourrait arranger bien des choses? Qu'est-ce que cette question éveille en moi? Il existe de nombreuses réponses à la question « Pourquoi pardonner ?» Et d'abord, je pense qu'il faut prendre conscience, c'est tout à fait essentiel, que le pardon concerne toutes les dimensions de notre vie et de notre être, à la fois sur le plan physique, psychologique, spirituel et social. C'est dire à quel point il s'agit d'une démarche importante et essentielle, vitale, dont aucun aspect ne peut être négligé. Et on peut adopter ou aborder la question du pardon selon différents points de vue. On peut l'envisager sous l'angle psychologique et thérapeutique, comme une délivrance, une libération personnelle. On peut aussi l'aborder sous l'angle sociologique et politique, comme un facteur d'apaisement et de cohésion sociale, ou de réconciliation entre des communautés, des peuples. Ou encore, et c'est notre point de vue essentiel aujourd'hui, sous l'angle spirituel. Je vous signale, je vous conseille quelques livres. Il y a de multiples livres écrits sur le pardon. J'étais surpris au départ, je me disais qu'est-ce que je vais trouver sur le pardon. Et quand on commence à gratter, à consulter Internet, eh bien, il y a des centaines de livres sur le pardon, sous tous les angles possibles, ce qui déjà manifeste l'importance du pardon. C'est vraiment, on ne peut pas passer à côté. Alors, sur le plan thérapeutique et psychologique, je vous conseille le livre de Jean Monbourquette, qui est un Canadien, un thérapeute et un prêtre, C'est un vrai nom canadien, hein. Mon Bourquette. Voilà. Il s'appelle Comment pardonner. Il y a aussi un livre que je n'ai pas pris aujourd'hui de Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner? Et enfin, il y a, il y a deux livres de Lita Basset, Le désir de tourner la page, au-delà du pardon, et un autre livre aussi qu'elle consacre au pardon. J'ai même pas eu le temps, pourtant je travaille ce sujet depuis un mois et demi, deux mois, de lire les deux tellement la lecture d'un seul suffit. Ça coûte moins cher qu'un poulet, chacun des livres, donc je vous conseille d'acheter ces livres et de les lire, et ça dure plus longtemps d'ailleurs. Alors, deuxième angle possible, c'est l'angle social et politique du pardon, et là je vous conseille la lecture des livres ou de certains de René Girard, que vous connaissez certainement, qui vient de mourir d'ailleurs, qui consacre beaucoup de livres à la rivalité mimétique dans les sociétés et des dégâts que cela cause, et des désordres provoqués au sein des sociétés humaines par la violence mimétique. Et enfin, sous l'angle spirituel, il y a le livre que vous connaissez tous de Henri Nouwen, Le retour de l'enfant prodigue, c'est vraiment le sujet central. Les deux livres de Lita Basset qui sont à cheval sur le thérapeutique, le psychologique et le spirituel. Et aussi beaucoup d'articles que vous pouvez trouver sur les sites d'internet, tradition musulmane, bouddhiste, chrétienne, énormément de choses. Et en particulier, j'ai trouvé deux très beaux articles de Alphonse Gutmann et de Philippe Dauté, Guérir par la puissance du pardon et rompre avec la logique meurtrière, et que je vous ai photocopié parce que je trouve que, même à la limite, vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, mais vous lisez ces articles, c'est vraiment magnifique, c'est très riche, très profond, très beau. Alors, rapidement, disons quelques mots de l'angle psychologique et l'angle social, avant de plonger dans l'angle spirituel. Du point de vue psychologique, il ne vous échappe pas que le pardon est avant tout une libération, une guérison, de soi-même d'abord, et ensuite, et aussi, en même temps, de l'offenseur, de celui qui nous a causé un tort. Lita Basset dit, on a trop souvent fait du pardon un but en soi. Dans la morale, vous savez, chrétienne, un peu lourde, tu dois pardonner. Et s'il s'agissait plutôt de tourner la page pour pouvoir enfin se libérer, dit-elle. C'est le titre de son livre, Le désir de tourner la page, au-delà du pardon. Un autre auteur écrit, libérer l'âme, c'est-à-dire la psyché, du ressentiment est le premier pas vers la guérison. Et voici un texte qui dit tout, finalement, il dit beaucoup de choses que j'ai trouvées sur un site bouddhiste, Vipassana Sangha. Je vais vous le lire parce que vraiment, il ne peut pas mieux dire que la manière dont il l'exprime. Le pardon est essentiel, sinon nous restons séparés des autres. Nous nous sentons isolés. Quand nous rejetons quelqu'un, nous sommes les premiers à en souffrir. Le pardon est la seule solution pour notre bien-être. Aussi longtemps que nous restons prisonniers de nos mauvais souvenirs, il n'y aura guère de place pour d'autres possibilités. Nous ne sommes pas libres et nous restons empoisonnés, pris dans les filets de la haine. Nos réactions, nos réponses restent l'hostilité, la rage, au lieu de l'amour, la tendresse, l'affection. La porte de notre cœur reste fermée tant que nous craignons d'être blessés, tant que nous craignons d'être blessés et de souffrir. Tant que nous ne pardonnons pas, nous continuons à porter et à transporter les blessures du passé. Notre cœur reste fermé. Il continue à ressentir la peur et la déception. Il est plein d'hostilité, de colère, de peine et de haine. Si nous pouvons pardonner et ouvrir notre cœur malgré toutes les injustices subies, nous libérerons en nous toutes les énergies bloquées et pourrons nous ouvrir aux autres, à la vie, à de nouvelles expériences. Nous nous donnons la chance de recommencer. Le pardon est une nécessité si nous voulons continuer à vivre et être heureux. Le pardon nous transforme. Il transforme nos relations et notre vie. C'est un grand soulagement, une libération, un renouveau. Et Jean Vanier, pour terminer sur ce plan-là, écrit « Pardonner, c'est briser les murs d'hostilité qui nous séparent les uns des autres. » Et aider chacun à sortir de l'angoisse provoquée par l'isolement, la peur et le chaos, pour le faire entrer dans la communion et l'unité. Si nous élargissons maintenant sur le plan social, le pardon est tout aussi essentiel. Comme l'écrit un homme que je ne connais pas, Michel Marais, le pardon et la réconciliation, sur un site que j'ai trouvé, il dit « Le pardon mutuel est très probablement la condition sine qua non de la paix dans notre vie, dans nos familles, dans nos communautés. » Et Anselme Grün dit « Une communauté ne peut subsister sans que ses membres ne soient disposés à se pardonner mutuellement. » Jean Monbourquette, « Les relations humaines deviendraient impossibles si le pardon n'existait pas. » À qui s'adresse les pardons? D'abord à soi-même, puis aux membres de sa famille, à des proches, à des amis, mais aussi à des étrangers, à des institutions et à des ennemis traditionnels, et enfin à Dieu. Les ennemis traditionnels, pensons aux tribus qui se massacrent régulièrement les unes les autres, ou pensons simplement à la réconciliation franco-allemande après les trois guerres. Mathieu Ricard dit « Beaucoup sont réticents au pardon » du mal fait à autrui. C'est ce que je vous disais en commençant. Pourtant, il faut l'envisager en termes d'harmonie sociale. La société n'a nul besoin d'une absolution teintée d'indulgence, d'insouciance, ou pire encore, d'une ambiguïté qui confine à l'approbation. Un tel pardon laisse la porte grande ouverte à la répétition des atrocités. La société a besoin de pardonner, afin d'éviter que se perpétue la rancune, l'acrimonie, la haine, qui vont inévitablement mûrir et se traduire par de nouvelles souffrances. La haine ravage nos esprits et ruine la vie des autres. Pardonner signifie briser le cercle de la haine. Et ici, quelque chose d'intéressant aussi, vous savez certainement que le pardon est intégré dans certains systèmes de justice, comme par exemple, on l'a vu au Rwanda, après les massacres de 93. Donc voilà, c'est ce qui est écrit, je ne vous cite pas les auteurs, mais c'est sur le site Psychologie Positive, au Verbo Pardon, sur Internet. Dans beaucoup de sociétés, que l'on nomme parfois traditionnelles, le pardon apparaît comme la composante clé des systèmes de justice. Dans cette société, tout offenseur est perçu par ses compagnons comme littéralement coupé de la société par suite de l'offense qu'il a commise. Par exemple, les Navajos ont coutume de dire d'un agresseur qu'il a agi comme s'il n'avait pas de relation. Et donc, il s'agit de le guérir et non pas de le punir, mais de le réintégrer dans la société. Je continue, d'ailleurs c'est ce qu'il dit par la suite. L'objectif essentiel est donc de réintégrer l'offenseur dans la société, car il est considéré comme néfaste pour la société de se démembrer. Le pardon humain est donc dans ces sociétés la voie préférée de traitement des offenses. Passons maintenant à la troisième angle d'approche, c'est-à-dire le point de vue spirituel. Et posons-nous cette question essentielle, en dehors de tout ce que nous avons dit déjà, pourquoi pardonner ? Eh bien, la réponse, je crois, la plus théologique, la plus profonde, la plus spirituelle, est celle-ci, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et vers sa ressemblance. C'est-à-dire à l'image du très miséricordieux, comme l'appellent nos frères musulmans, dont les entrailles frémissent de compassion pour nous. Cet amour des entrailles est, vous le savez, le sens premier des mots hébreux qui désignent la miséricorde. Rahamin, entrailles. Et rehem, qui est là le mot de base, qui signifie la matrice, le sein maternel. À l'image de ce Dieu fidèle qui jamais n'abandonne son peuple, ni ses enfants, égarés, malheureux. Dans le dictionnaire de théologie biblique, nous trouvons une explicitation de cette étymologie, de ce sens de mot miséricorde. La miséricorde, dans le langage biblique, se trouve au confluent de deux courants de pensée, la compassion et la fidélité. Le premier terme hébreu, rahamin, exprime l'attachement instinctif d'un être à un autre. Le sentiment, d'après les sémites, a son siège dans le sein maternel, rehem, dans les entrailles. Nous pourrions dire aussi le cœur. C'est la tendresse. Il se traduit par des actes de compassion ou de pardon. Le deuxième terme hébreu, hesed, désigne la piété, mais au sens de la relation qui unit deux êtres et qui implique la fidélité. Et la traduction des mots hébreux et grecs aussi de la miséricorde à l'amour, la pitié, la compassion, la clémence, la bonté et même la grâce. Comment pourrions-nous vivre en chrétien, c'est-à-dire en disciple du Christ, sans prendre pour modèle de nos comportements, de nos pensées, de nos actes, la vie trinitaire elle-même et la manière de vivre du Christ. C'est-à-dire sans devenir miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux et comme le Christ est le compatissant. Alphonse Guttmann écrit « Dans ce visage de Dieu se révèle notre propre visage ». Quel est le visage de l'homme? Eh bien, c'est le visage de Dieu. Il faut regarder Dieu pour connaître notre vrai visage. Si l'homme est à l'image de Dieu, et si Dieu est pardon infini comme il l'a manifesté tout au long de l'histoire biblique, le seul chemin qui permette à l'homme de devenir homme, c'est le pardon. Il n'y a pas d'accomplissement possible pour l'homme, pas de guérison physique ou psychique sans le pardon. Et rappelons déjà ici, je le redirai un peu plus loin, c'est que le pardon chrétien n'est pas une faculté, une possibilité, une option parmi d'autres, qui est laissée à la fantaisie ou à la bonne ou à la mauvaise volonté des uns et des autres ou à notre inspiration personnelle, mais qu'il est inscrit par le Christ, nous sommes en train de tourner autour, au cœur même du Notre Père, la seule prière qu'il nous est donnée. C'est dire son caractère fondamental, son importance vitale dans nos vies, dans notre chemin spirituel. Et c'est une injonction, ce n'est pas un conseil d'amis, qui est répété et amplifié par de nombreuses autres paroles et actions, actes du Christ, sur lesquels nous reviendrons plus longuement. Et relevons aussi, c'est intéressant, je ne l'avais pas aperçu avant de travailler cette phrase, c'est que l'acte de pardonner est la seule action humaine inscrite dans la prière du Notre Père. Quand vous demandez que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, etc., il n'y a pas d'action humaine en dehors de la réception. Nous demandons, nous recevons. Mais ici, comme nous-mêmes, nous pardonnons. Donc l'acte humain est mis au cœur de la prière et c'est la seule action, le seul verbe qui nous concerne, nous. C'est un verbe donc en marche. C'est une interaction, une synergie divino-humaine. Il n'y a pas de pardon théorique sans mise en pratique. Ça n'existe pas. Edith Abbassé dit, il s'agit d'une compassion agissante. La compassion agissante, dit-elle, est bien la fine fleur de notre héritage juif. La compassion agissante. Être ému aux entrailles, c'est quelque chose, écrit-elle, de dynamique, qui bouge et qui fait bouger. Et cela m'évoque cette belle phrase du maître bouddhiste Thich Nhat Hanh, la compassion est un verbe. Ce n'est pas quelque chose que nous contemplons de loin, c'est quelque chose que nous sommes invités à pratiquer, à vivre tous les jours. Approchons-nous maintenant du pardon dans la Bible, une famille de chats dans la gorge. Nous voici donc au cœur de notre sujet. Nous allons tenter d'approcher le mystère, parce qu'il s'agit bien d'un mystère, du pardon divin à travers les textes des deux testaments. Et puis, nous nous intéresserons au pardon humain, tout en recherchant ce qui les unit et ce qui éventuellement les distingue. Et pour bien comprendre le caractère vital du pardon, rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu, comme dit Jésus. Et de constater que la Bible nous fait découvrir non pas un Dieu vengeur et redoutable dans sa colère, comme des siècles de myopie spirituelle nous l'ont enseigné et transmis malheureusement à nos ancêtres. Combien de gens disent « Ah, moi, l'Ancien Testament, ne m'en parlez pas. Le Dieu horrible, terrible, cruel, une espèce de Dieu primitif, toujours prêt à écrabouiller les gens qui ne lui obéissent pas. » Eh bien, c'est absolument pas ça du tout que nous trouvons comme image de Dieu dans le Premier Testament. En réalité, si nous savons lire entre les lignes et au-delà de cette première lecture littérale d'un Dieu qui semble en colère permanente, car des exégètes sont amusés à compter le nombre de colères divines dans l'Ancien Testament et ils en ont trouvé 170, ce qui est pas mal, et les colères humaines 40 seulement. Ce qui veut dire apparemment que Dieu est un véritable soupe-au-lait colérique, mais pas du tout. Nous allons voir que la colère même est une expression de son amour. Enfin, nous le verrons dans quelques instants. Et donc, Dieu, dans le Premier Testament, est un Dieu paternel et maternel, qui déborde d'amour, de tendresse, de miséricorde constante, de compassion pour nous. Et l'être même de Dieu est pardon avec un grand P. Il est le don total, comme je le disais au début dans l'étymologie du mot pardon, c'est-à-dire l'amour absolu. Et le pardon est un don, est un nom de Dieu. Nous pouvons appeler notre Dieu pardon. C'est un des plus beaux noms. Le Dieu d'Israël est rempli de miséricorde. Il est la miséricorde. Et comme je le disais il y a quelques instants, ses entrailles maternelles et paternelles frémissent et s'émeuvent. Éphraïm est pour moi un enfant chéri, un enfant qui fait mes délices. Plus je parle de lui, et plus mon souvenir est en moi. Mes entrailles sont émues en sa faveur. Prophète Jérémie, sa compassion est illimitée, sa tendresse comparée à celle d'une mère pour l'enfant dont elle soutient les pas maladroits, ses premiers pas, et dont elle guérit les blessures. Dans Osée, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par les bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Mon cœur s'émeut au-dedans de moi. Toutes mes entrailles sont émues. Une autre image qui revient souvent, en dehors de celle du père ou de la mère, c'est celle du fiancé. Et nous trouvons à nouveau dans le prophète Osée cette magnifique image du fiancé qui conduit sa fiancée au désert. C'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras le Seigneur. Et donc c'est un Dieu qui s'émeut, qui pardonne sans aucune limite. Je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération, c'est-à-dire à l'infini. Nous trouvons dans un autre passage que je n'ai pas reproduit, « Ma colère durera 3 générations et mon pardon 1000 générations. » Le Seigneur miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, dit-on dans l'Exode. Le Seigneur console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit-on dans Isaïe. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu est plus fort même que l'amour maternel, qui est pour nous humains l'amour le plus fort que nous connaissions. Et Dieu, qui est un Dieu vivant, souffre de l'éloignement, c'est-à-dire de l'égarement de son peuple. Comme le père de l'enfant prodigue dans cette merveilleuse parabole souffre profondément de l'éloignement de son enfant et attend avec une infinie patience son retour, sa conversion. Et je vous le disais, même la colère divine est l'expression de son amour. Et ça, il faut vraiment bien le saisir. Car c'est souvent mal compris par ceux qui affirment que l'Ancien Testament donnerait cette image d'un Dieu mal dégrossi, alors que le Nouveau Testament, enfin nous découvririons le Dieu d'amour, ce qui est absolument faux. Le Dieu d'amour est prégnant, présent dans les deux testaments. Si Dieu se met en colère, ce n'est pas parce qu'il est animé par un ressentiment ou par la violence. mais parce qu'il est déçu, trahi, blessé dans son amour. Il souffre avec ceux qui souffrent. Et quand je dis il souffre avec ceux qui souffrent, c'est la racine même du mot compassion. Compassion, souffrir avec. La colère de Dieu, écrit Luciano Manicardi, qui est un moine de l'abbaye de Beauce ou Brose, je ne sais plus comment ça s'appelle, en Italie, c'est une abbaye très connue. Beauce ou Beauce, écrit ceci. La colère de Dieu est l'expression du pathos de Dieu, c'est-à-dire de sa souffrance, blessé par le mal qui est perpétré. Les prophètes, participants du pathos divin, sont ceux qui partagent et manifestent cette indignation qui est souffrance face au mal qui a été commis. La justice commence avec cette colère profonde face à l'injustice. Toute la prophétie constitue une grande exclamation. Dieu n'est pas indifférent au mal. La justice est ainsi souffrance face à l'injustice. Écoutons Eschel. Eschel, c'est un rabbin, philosophe, théologien juif qui est du XXe siècle, qui est mort actuellement, Abraham Eschel. Voici ce qu'il écrit, c'est cité donc par Luciano Manicardi. Le sens humain de l'injustice est une pauvre analogie du sens divin de l'injustice. L'exploitation des pauvres est pour nous une transgression. Pour Dieu, c'est un malheur. Est-ce un signe de cruauté si la colère de Dieu éclate quand les droits des pauvres sont violés, quand les veuves et les orphelins sont opprimés? Loin de s'opposer à l'amour, la colère de Dieu lui est intérieure. La colère de Dieu ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie, dit le psaume 30. Elle est l'expression de l'amour blessé, violé. Et Dieu va ainsi secouer tout au long du Premier Testament, nous le voyons à de nombreuses reprises, la mémoire de son peuple, le réveiller et lui faire prendre conscience de son amnésie, de la rupture d'alliance, de l'égarement, et de lui rappeler constamment sa volonté de lui pardonner. Et pardonner à tel point, et ça nous l'oublions parfois, nous n'en prenons pas conscience, que les péchés sont totalement oubliés, totalement effacés. Nous voyons dans un passage, je crois, d'Isaïe, « Si vos péchés sont cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. » Vous savez, c'est comme l'ardoise magique qu'on avait étant enfant. Vous écrivez, et puis vous tirez la tige, et tout est effacé. Eh bien, quand Dieu pardonne, il ne garde pas en mémoire les péchés passés, il les efface totalement, complètement. Ce qui est différent, nous le verrons, du pardon humain. Qui est semblable à toi? C'est le prophète Michée qui parle. Qui est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Il ne garde pas sa colère pour toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. Et rappelez-vous, ça me fait penser au prophète Jonas, qui va pour convertir Ninive et leur dire de faire pénitence. Et puis Dieu pardonne à Ninive. Et que fait Jonas? Est-ce qu'il se réjouit? Pas du tout. Il est profondément troublé et il est fâché contre Dieu que Dieu leur pardonne. Mais leur pardonne à ce point totalement que c'est comme si Ninive n'avait jamais péché. Ce qui montre que le pardon divin dépasse de loin notre propre capacité de pardon et de même comprendre le pardon dans sa profondeur. Alors retenons de ce très bref aperçu, de ce survol du Premier Testament, que ce qui domine réellement chez le peuple hébreu, avant même l'incarnation du Verbe, on fait ici abstraction du Nouveau Testament, c'est la prise de conscience que Dieu, avant tout, est une puissance infinie d'amour, de tendresse, de compassion, dont la miséricorde et le pardon sont inépuisables. Le Père Alphonse fait ce commentaire, en pardonnant, Dieu montre ce qu'il est. Dieu est don parfait. Le pardon est son état. Ainsi, il révèle son cœur à chaque instant de l'alliance qu'il veut nuptiale. L'expérience du pardon induit à un nouveau commencement, où au sein de l'alliance retrouvée, la chute se transforme toujours en un plus profond amour. Seul le pardon contient cette puissance de recréation. Dieu, par le pardon, veut révéler son vrai visage, afin que le pardon soit désormais la nouvelle loi qui régit toute relation humaine. Voilà. Eh bien, on peut chanter les textes. C'est une première exposition. Ah oui, c'est ça. Ça va, je suis maintenant là.